Bonsoir à toutes et à tous, nouvelle édition de Cop Nord. Cette semaine encore, on va faire parler en direct des supporters de Lille, des supporters de Lens. On va revenir notamment sur les matchs du week-end, puisqu'au sommaire ce soir, Lens montre enfin ses objectifs. À 10 matchs de la fin de la saison, et après leur victoire 3-0 contre Angers, Francaise a enfin affirmé vouloir retrouver l'Europe, mais il faudra traverser un mois d'avril compliqué pour les 100 et or. L'Europe, c'est un objectif aussi pour les Lillois, toujours 6e malgré leur victoire 2-0 à Toulouse. Les Dogs qui comptent tout de même 5 points d'avance sur le 7e. Et puis c'est l'heure d'une petite semaine de repos pour les non-internationaux. Alors on va profiter de cette dernière trêve de la saison pour faire un bilan des forces en présence alors que les deux équipes préparent le sprint final. On en parle ce soir avec nos invités en plateau. Bonsoir Raphaël Marquand, ancien Bonsoir. Du Petit Lillois, Baptiste Cogé, on connaît plus sur le nom de Breaking Dog, notamment sur Twitter. Bonsoir Mohamed Zeraoulia, notre supporter en soi. Et bonsoir Maxime Sidra, le plateau qui est donc présenté ce soir. Vous pouvez vous aussi réagir à cette émission grâce au hashtag CopNord sur Twitter et pourquoi pas un jour rejoindre ce plateau. On attend vos messages sur Twitter, le hashtag CopNord. Mais d'abord, on commence avec cette image qu'attendaient tous les Lensois et sûrement, probablement, forcément Mohamed. Brice Samba qui est arrivé en début d'après-midi à Clairefontaine. Arrivé plutôt sobre, hein, on va pas juger le style vestimentaire, on va laisser ça aux autres chaînes TikTok pour faire ça. Mais on voit surtout donc que le portier sans erreur découvrait l'équipe de France cet après-midi. Il était plutôt heureux, écoutez.
Très content, très excité. Voilà, ce sont mes premiers pas ici avec les A de l'équipe de France, donc non, très très content et j'ai hâte de découvrir tout le monde.
Et Brice Samba qui a passé, on va dire, un samedi plutôt calme au stade Bollard. On va voir ça tout de suite avec le résumé de cette victoire lensoise face à Angers. Résumé de la rencontre avec Benjamin Sautré-Friseau.
Les 100 et or et Bollard de nouveau à la fête un mois après leur dernière victoire à domicile. Les hommes de Francaise dominent facilement Angers. Malgré un début de match hésitant avec une défense à 4, les Lensois basculent à 5 derrière et retrouvent leur efficacité. Fofana puis Openda font le break avant la pause. L'attaquant belge y va de son doublé dès la reprise, son 14e but en championnat cette saison. 3-0, deuxième succès de rang pour Lens, solide 3e de Ligue 1.
Et si on regarde rapidement les statistiques, on peut voir, et ben, c'est une surprise cette saison. Angers a eu plus le ballon que Lens au long de cette rencontre. Une possession qui restera tout de même stérile puisque la lanterne rouge de Ligue 1 n'a tiré que 3 fois au but, dont un seul cadré. Des Lensois qui ont su se ressaisir avec au total 12 buts, dont 6 tirs cadrés. Les top et flop donc de cette rencontre, forcément je me tourne vers toi Mohamed. Pour toi, qui est le meilleur Lensois samedi
soir? Pour moi c'est Openda. Openda qui poursuit sa lancée de la semaine dernière où il met un triplé. Là, il met un doublé. Il est constamment en mouvement. Il fait les appels. Il met toujours en danger les défenses adverses. Pour moi, c'est mon top.
Et est-ce qu'il y a d'autres Openda en top sur ce plateau? Oui pour Baptiste.
Oui.
Maxime,
pas
le seul, je pense.
On peut dire oui, mais on peut varier aussi les plaisirs.
Ouais, voilà. Et ben, juste avant de varier les plaisirs avec toi, Raphaël, on peut regarder Openda qui a donc signé ce doublé, qui inscrit son 13e et 14e but, qui devient le meilleur buteur des 100 et or sur une saison au 21e siècle. Il égale Anto Drobniak, meilleur Lensois en 98. Et le record, il appartient à Roger Bollisté, 20 buts en 93-94. Ouais. Voilà, donc il faudrait encore qu'il marque 7 buts en 10 rencontres. Possible ou pas pour Loïs Openda. Pour toi, c'est faisable?
Ouais.
Tu les vois marquer, tu les vois passer?
Il continue à mettre des triplés, des doublés, il n'y a pas de raison. Ouais.
Possible.
C'est possible.
Ça va être compliqué, il y a un calendrier quand même assez ardu qui arrive.
Je pense, ouais.
Et si tu voulais donc varier les plaisirs, je reviens à toi, Raphaël. Pour qui était ton top?
Thomasson. Il m'impressionne vraiment par son jeu en une touche. Il arrive à créer beaucoup de décalages. Pourtant, il est arrivé que cet hiver et t'as l'impression qu'il est là depuis un an, deux ans, qu'il connaît parfaitement les rouages de cette équipe. C'était vraiment impressionnant. C'est lui qui décale plusieurs fois Openda, qui décale Gradit, qui lance après Openda. Donc franchement, dans son jeu de corps, mais aussi de passe, je l'ai trouvé très vif et très intéressant.
Alors, on revient sur toi, Mohamed. Pour toi, qui est le Lensois qui a le moins réussi sa partition samedi soir?
Alors, moi, c'est pas un joueur, c'est les 20 premières minutes de Lens.
Le coaching de Francaise.
Voilà,
en fait.
Avec son système à 4 derrière. Et au moment où il est passé à 3, le match a littéralement changé. Et...
Bah justement, on peut en parler, parce que c'est vrai que ce coaching qui avait pourtant marché contre Lens, contre Lille, pardon, a posé quelques petits soucis aux défenseurs, tu l'as dit. Ça a posé aussi des soucis à Jonathan Gradit, qui en avait parlé à la fin de cette rencontre.
20 premières minutes compliquées, on a pas mal galéré et du coup on a fait un changement de système qui nous a permis aussi de d'avancer plus facilement et c'est là où on a réussi à débloquer la rencontre. On a matché avec les joueurs en face parce qu'ils étaient dans un dispositif aussi à 3 donc c'était vraiment du 1 pour 1 donc du coup c'était plus facile à avancer. Après il ne faut pas se réfugier derrière un système aussi parce qu'on l'a très bien fait contre Clermont donc je veux dire on est capable aussi d'évoluer à 4 et de faire des très bons matchs. Après c'est notre force aussi de pouvoir s'adapter en plus pendant la rencontre donc c'est une ressources pour nous et c'est très bien.
Et si on regarde donc les choix faits par Francaise qui ont permis aux Lensois de revenir un peu dans cette rencontre, bah on peut regarder la composition, donc on voit Aïdara à gauche, donc la classique Danso Gradit dans l'axe, et à droite c'était Frankowski, et puis il y a donc ce changement hein, opéré par le coach Lensois. On voit donc Aïdara qui vient rentrer dans l'axe, Frankowski qui passe à gauche et Sotoka à droite. On va parler hein, donc de ce choix, de ce recul donc pour Sotoka qui semble être un bon choix, en tout cas dans la suite du match. Juste rapidement, donc vos flops, Maxime ?
Au début du match, c'est vrai que défensivement, c'était compliqué pour Lens. Je n'ai pas forcément de joueur précis. Aïdara peut-être à gauche, mais... Comment ?
Il n'y a pas de bons élèves ce soir, on tous restait sur le schéma. Mais est-ce que pour vous, il y a un joueur qui incarne peut-être ces difficultés, peut-être un latéral qui a eu plus de difficultés que sur un système à 5 ?
Moi, ça va être très sévère, ça va être Samba. En fait, c'est la double parade manquée, ça m'a vraiment étonné. Mmh. On voit jamais ça chez lui. Et tu sens que peut-être qu'il a été déstabilisé aussi par une semaine qui est assez mouvementée pour lui. Et c'est aussi une sorte d'expérience à engranger, même s'il est déjà très expérimenté. Mais ça permet aussi d'apprendre au fil des rencontres. Peut-être heureusement que c'était rangé finalement, parce qu'il était peut-être concentré par autre chose.
Et à noter que Medina, donc, lui, devrait faire son retour après cette trêve internationale. Retrouver cette structure à 5 défenseurs et notamment les 5 titulaires du début de saison, c'est un soulagement pour toi ?
Ouais. Franchement, même si les joueurs qui ont fait l'intérim ont bien géré, mais c'est vrai que le fait que Medina se soit blessé contre Nantes en Coupe de France, qu'il ne joue pas le derby, moi ça m'avait beaucoup inquiété. Là, j'ai vraiment hâte qu'il revienne. Quoi.
Et là, tu parles du derby justement, le 4-4-2 utilisé par Francaise à très bien fonctionné, du moins pendant une mi-temps face au Lillois. Là, le fait qu'il ait quand même quelques failles contre d'autres équipes montre que c'est pas le système privilégié des Lensois qui va de toute façon, Francaise, c'est de terminer cette saison à 5 défenseurs.
Non, je pense pas.
Non, c'est pas plus mal d'avoir une double palette. On voit qu'il a réussi à s'adapter rapidement en fonction de l'adversaire. Il change et puis la physionomie du match est totalement bouleversée. Donc c'est pas plus mal non plus d'avoir deux dispositifs dans lesquels on se sent bien.
Et un mot aussi sur, donc on l'a dit, Sotoka, qui joue piston droit. Il joue partout, Sotoka, cette saison à Lens.
Oui, c'est ça. Alors, on peut le critiquer parce qu'il ne marque pas. Mais moi, ce que j'aime chez lui, c'est un battant. Il est toujours présent. Il dépanne, il court. Bon, alors, oui, il faudrait. Ce week-end, samedi, j'avais envie d'une chose, c'est qu'il puisse marquer pour vraiment pour qu'il soit récompensé de tous les efforts qu'il fait. Bon, il n'a pas marqué, mais je trouve que il est toujours présent. Il répond toujours présent sur le terrain. Moi.
On peut parler aussi donc de ce qui s'est passé après la rencontre. C'est un petit événement quand même dans le monde des conférences de presse à Lens. C'est Francaise qui a enfin reconnu qu'il jouait l'Europe. Écoutez.
C'est de ramener le club en Coupe d'Europe. Voilà. Après, il n'y a pas de limite à se fixer. Mais c'est déjà de ramener le club en Coupe d'Europe. On est dans le top 5 depuis le début de saison. On a 4 défaites en 40 matchs. On a le droit d'être. On a toujours été ambitieux. C'est sûr qu'on va passer les 15 jours dans des bonnes conditions. Voilà, maintenant, je sais qu'il reste 10 matchs. Donc, on va prendre un peu de repos pour certains, pas tous. Et puis, on va se préparer pour la dernière grande ligne droite.
Donc, Francaise qui a rangé son costume de Giroud. Ça y est, fini l'objectif maintien. Le fait donc d'avoir eu ce parcours, de flirter toujours avec la deuxième, troisième place. Pour toi, est-ce que Lens peut tenir un rythme qui reste tout de même assez effréné dans ce top 5, top 6 ?
Alors, j'espère qu'ils vont pouvoir tenir le rythme. Après, ils ont un calendrier assez chargé, assez difficile avec Marseille, Paris, Monaco, Rennes. Ça ne va pas être un calendrier facile. On va voir si là, on est vraiment fait et taillé pour la Coupe d'Europe, quoi.
Ici, il faut parler aussi de ces derniers mois. On jette un petit coup d'œil dans le rétro. Les mois de janvier, février, qui ont été plutôt compliqués pour les Lensois. On voit 14 points sur 30 possibles en 10 matchs. Et puis là, mois de mars, 3 matchs, un match nul lors du derby et 2 victoires récemment, donc contre Clermont et là contre Angers. Est-ce que pour vous, ça y est, c'est ce trou d'air de post-Coupe du Monde, on peut appeler ça comme ça, est terminé, Maxime ?
Oui, moi je pense. Ouais. Je pense que Lens, ils peuvent finir la saison comme ils l'ont commencé. Il n'y a pas de raison, honnêtement. Et je les vois bien finir dans le top 3 sans
Alors comment on l'explique, cette fatigue, cette espèce de trou d'air ? C'est, pour vous, c'est normal dans une saison d'avoir ces moments de, où il y a moins la réussite ?
Ouais. Moi, je trouve que c'est normal. Il y a eu l'effet Coupe du Monde. On a eu quand même beaucoup de joueurs qui sont partis faire la Coupe du Monde avec les résultats plus ou moins différents. Et on avait fait vraiment une bonne première partie, une très très bonne première partie. Et je pense qu'à l'enchaînement des matchs.
Puis c'est extrêmement rare qu'une équipe fasse une saison complète au top niveau. Ben regardez, oui. Même Paris Saint-Germain fait pas une saison au top niveau constamment. Ils sont à combien, 4-5 défaites déjà cette saison.
Mais est-ce qu'il y a un déclic alors en ce début du mois de mars pour vous quelque part ?
Non, pas forcément. Après, on sait que le derby est toujours un match spécial. On l'a vu pour Lille en première partie de saison. Et là, Lens a montré un bien meilleur visage que ces dernières semaines lors de ce match-là. Mais comme l'a dit Maxime, toutes les équipes ont des creux. Vaut mieux que ce soit maintenant qu'au sprint final où on sait que chaque point compte et que la dynamique permet d'enchaîner les rencontres. Là, ça fera 2 semaines de repos. Lens n'a pas un effectif taillé pour jouer toutes les semaines de match. Donc forcément, puis, là, ce trou d'air...
Il faut aussi noter le retour des blessés. La semaine dernière, on a le retour de Alexis Claude Maurice qui marque dès son entrée. Medina reviendra après la trêve internationale. On parle de Wesley Saïd qui va revenir. Donc, ouais.
Après, ils ont fait un recrutement aussi pour hein, cet hiver. Claude Maurice, ouais. Thomasson, tout à l'heure tu parlais, le recrutement est très très bon aussi. Donc,
Parce qu'il y a Thomasson aussi, Fulgini, qui commence à vraiment trouver ses marques et qui impressionne aussi.
Ça s'accélère le mercato de janvier. Hein. Ouais. On le voit.
Mais qui a quand même quelques risques aussi, le mercato de janvier. On sait qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on perd, on ne sait pas vraiment ce qu'on reprend, mais pour l'instant. Pour
Je pense qu'ils savaient ce qu'ils prenaient quand même avec Thomasson, et en plus, c'est un joueur qui était en Ligue 1 pendant très longtemps. Donc, ils ne sont pas trop.
Donc, très bonne pioche, mercato hivernal, qui va servir sur ce sprint final.
Moi, je pense, ouais.
En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Donc, au Lensois, il reste donc 10 rencontres. On va se quitter quelques instants, le temps d'une courte page de pub, et on se retrouve donc pour parler là aussi des 10 derniers matchs de la saison pour le LOSC. À tout de suite. On est de retour dans le Cop Nord et on va maintenant parler du LOSC qui s'est imposé 2-0 à Toulouse samedi. Résumé de cette rencontre avec Quentin Gribel.
Le LOSC renoue avec la victoire. À Toulouse, les Dogs montrent un visage séduisant, mais l'orage puis la grêle interrompent leur bonne lancée. À la reprise, c'est le TFC qui se montre le plus dangereux. Le poteau, puis Lucas Chevalier sauve les Lillois. Et alors qu'on se dirige vers un match nul à 5 minutes du terme, Alexandro ouvre le score sur cette tête piquée. Mohamed Bayo creuse ensuite l'écart sur une contre-attaque dans le temps additionnel. Une victoire 2-0 qui fait du bien avant la trêve internationale. Prochaine rencontre dans 15 jours face à Lorient.
En devant, c'est dur, hein. À 5 mètres.
Vous voyez, c'est ça, Cop Nord. C'est des débats tout le temps, même quand il y a des résumés. Et on va évidemment revenir sur tout ce qui s'est dit sur ce plateau, sur ce match qui était très disputé. Hein, si on regarde les statistiques de cette rencontre, d'une possession équilibrée dans ce match qui aurait pu basculer des deux côtés. On voit par exemple les 18 frappes lilloises contre 16 toulousaines. Bref, pour une fois cette saison, la pièce est tombée côté lillois. Et je pense que les supporters vont profiter des tops et flops qui, pour vous, enfin, je vais même spoiler ce qui s'est dit, je vais même raconter ce qui s'est dit. En tout cas, si j'ai bien tout compris, pour vous, Chevalier, c'est clairement l'homme du match. Est-ce que je dis pas de bêtises ?
Il n'y a pas de photo, problème.
Pas Chevalier, non, Chevalier.
Sans lui, il gagne pas.
Mais
ouais.
Tout le monde parle de l'arrêt à la 94e qui est magnifique, c'est vrai. Ouais, mais l'arrêt à la 43e là, sur la frappe de, je ne sais plus comment il s'appelle, le Toulousain.
Le Suisse, numéro 13, évidemment. Là aussi.
Pour moi, elle est encore plus importante juste avant la mi-temps. Et elle est encore plus dure à sortir. Croyez-moi, franchement, elle est encore plus dure à sortir.
Il y a plusieurs grosses parades où il est toujours là au bon moment, au moment où Lille plonge, il est là pour les sauver. Et il a vraiment fait un match très très costaud où, pour moi, on a beaucoup de chances de s'en sortir.
Et même dans la distribution, parce que je crois qu'il n'a pas raté une passe pratiquement. Et même les relances courtes entre deux joueurs, c'est beau à voir en plus, c'est plaisant, mais c'est risqué. Mais c'est... après, c'est le système qui va avec. Mais...
Et Maxime, si tu retiens donc cet arrêt juste avant la mi-temps, oui. Lucas Chevalier, il est vraiment concentré sur celui à la toute fin. Au bout du temps additionnel, Lille mène 1-0. Et pour Lucas Chevalier, c'est l'un des arrêts les plus durs qu'il a eu à faire de sa jeune carrière. Je cite, « Je pense qu'on ne se rend pas compte de la vitesse, c'est du pur réflexe. C'est impressionnant pour le spectateur, mais aussi pour moi. Ça me met un choc dans le corps. On subit... comme si une voiture rentrait dans un mur. Bref, donc c'est vraiment là, c'est le sacrifice Lucas Chevalier qui offre d'abord au moins un point aux Lillois et même les trois, puisque donc Mohamed Bayo vient conclure là aussi tout en force, puisqu'on parlait de choc de voiture qui rentre dans le mur, on peut parler aussi de la frappe de Mohamed Bayo, qui est pas vraiment le synonyme de la finesse. Le top donc est fait, les flops pour vous, le flop du moins, le Lillois pour toi, qui Raphaël, qui a été le moins en vue.
On parlait de Bayo qui a fait une superbe frappe. À côté, il y a David qui, pour moi, n'a pas tenté quand il en avait l'occasion. Il a tenté d'être trop altruiste. Il a fait des passes qui n'étaient pas forcément nécessaires. Il aurait dû frapper. On l'a vu plus à son aise, par exemple, à Lyon, où là, il avait peur de rien. Et je trouve qu'il a beaucoup, beaucoup manqué.
David et pour Baptiste.
Moi, je vais mettre l'entrée en jeu de Zegrova. J'étais obligé de le placer, hein, mais il n'a pas été bon. À chaque fois, des pertes de ballons inutiles. Où il fallait gagner du temps et il en perdait plus qu'autre chose, ça amenait des actions offensives. Donc moi je mets Zegrova en flop.
Maxime,
j'en ai plusieurs. David, c'était le premier que j'avais noté, parce que pour tout ce que tu as évoqué avant, c'est vrai, il a tenté beaucoup de passes qui n'étaient pas utiles. Il a tenté une frappe qui est partie en
alors qu'il corner, est, du but,
c'est vrai qu'il n'était pas en confiance, c'est pas son match, ça peut arriver. Il a claqué quand même 4-5 buts récemment, donc pas non plus, voilà, c'est ça, c'est quand même très très bonne. Zegrova, l'entrée, c'est vrai. Et j'avais aussi, défensivement, c'est un peu... Ils font clean sheet, donc voilà. Mais dans l'axe, Alexandro, je ne l'ai pas trouvé très, très bon non plus derrière. Perte de balle deux fois en première mi-temps, qu'on fait coûter très cher. Pour moi, c'est un flop aussi, je voulais relever. Même s'il marque, en plus. C'est vrai qu'il marque, j'ai oublié, c'est important. Mais c'est vrai que
son but le sauve.
Son but le sauve, mais dans le match, il n'a pas été très, très, très bon derrière.
Malgré
tout.
Bamba, alors... Ça m'ennuie un peu de dire Bamba, parce qu'avec tout ce qu'il fait,
peut-être qu'il en fait trop et du coup on concentre pas sur sa tâche.
Mais c'est vrai que il nous a habitués à nettement mieux et on prend plaisir à le voir marquer des buts, à voir faire tout le travail, et on devient un peu exigeant vis-à-vis de lui.
Un mot aussi de la défense. Tu parlais donc du bricolage, hein, Alexandro qui se retrouve titulaire, c'était pas forcément le cas en début de saison. Une autre mauvaise nouvelle pour un Paulo Fonseca, c'est que Timothy Weah est sorti sur civière. Le club a annoncé qu'en fait il est victime d'une commotion cérébrale. Il est donc évidemment forfait pour le rassemblement des États-Unis. Il devrait faire son retour à l'entraînement d'ici une semaine sous validation de l'avis neurologique. Qui pour le remplacer à droite?
On a vu que Deschamps a pris Kamavinga à gauche, donc pourquoi pas André à droite. Mais non, sinon il y a Simon Ramé qui a joué son match. C'est un jeune qui avait du talent par le passé, je trouve, qui est un peu en difficulté.
Il remplace d'ailleurs à Toulouse.
Oui, il le remplace à Toulouse, mais il stagne un peu ces derniers temps en étant joué en réserve. Donc ça peut être un déclic pour lui. En tout cas, il faut qu'il en profite.
Quel âge il a? 20 ans.
Après, que normalement, Diakité devrait être de retour de blessure. C'est ça que tu allais dire, Baptiste?
C'est ce que j'allais dire. Tu m'enlevais les mots de la bouche.
En tout cas, donc, Diakité qui pourrait revenir, mais là aussi, il faut voir selon l'état physique. On parle de l'autre côté aussi. Goodmanson, lui, est de retour de blessure. Remplace Ismaili qui devrait pas être de retour tout de suite. Du moins, il manque encore quelques semaines sur le côté. Pour vous, est-ce que Goodmanson finalement est une bonne surprise à gauche?
En première mi-temps, oui. En tout cas, enfin, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, enfin, contre Toulouse le week-end dernier. Oui, il était bon en première période, défensivement, même si c'est pas forcément pour ça qu'on attend de lui.
Je pense qu'il était enterré par beaucoup de monde avec ses graves blessures répétées. Donc ça fait vraiment plaisir de voir qu'il arrive à s'épanouir aussi à un poste où on l'avait pas vu en début de saison. Il jouait ailier droit. Donc assez, c'est là où il était formé, en fait. Mais donc là, ça fait plaisir. Puis on voit enfin qu'on a... Enfin, il prouve aussi sa valeur, alors qu'il était en difficulté. Ça peut être une véritable bonne pioche, sachant que Ismaili est sur le carreau et il se fait un peu vieux aussi, donc peut-être qu'il ne reviendra pas au top de sa forme.
Et ce qu'on retient donc du côté lillois, c'est les trois points à l'image d'un Rémi Cabella. Écoutez.
On regarde devant depuis un petit moment. Après, c'est vrai qu'on n'a pas gagné Lyon, par exemple. Mais voilà, ce soir, on gagne. Ça fait du bien. Maintenant, il nous reste 10 matchs. 10 matchs, comme j'ai dit, ça va être des combats. Et on va aller chercher quelque chose parce qu'on a envie et on a le groupe.
Il reste 10 matchs. Lille s'accroche hein, à ces 5 places européennes, même si pour l'instant ils sont 6e, mais ils ont quand même quelques points d'avance sur le 7e. Si on parle vite fait donc, du coaching, pour une fois, de Paulo Fonseca, on a parlé de ce qui ressemble à du bricolage hein, en défense. Il fait avec les moyens du bord, avec un Timothy Weah qui semble s'imposer en latéral droit. Pour vous, est-ce qu'il manque des points à cette heure-ci à cause du coaching ou du non-coaching de Paulo Fonseca, ou vous comprenez complètement la sixième place qui est la première année pour l'instant de Paulo Fonseca, l'entraîneur portugais?
Pour le coup, on savait que Paulo Fonseca lançait un projet. Donc c'est finalement les dirigeants qui nous ont appâtés avec cet objectif de Ligue Europa, d'Europe, Ligue Europa Conférence.
Tu crois pas?
J'ai un peu l'impression qu'on est comme la saison dernière, on est toujours à ça et on n'y arrivera peut-être pas. On a la chance d'avoir un calendrier peut-être moins chargé que nos concurrents directs, donc à nous de saisir l'occasion. En tout cas, même si on n'a pas notre destin entre nos mains, en tout cas, on a l'opportunité de le faire. Voilà, après, on a déjà manqué le coche plusieurs fois.
Baptiste, Lille européen à la fin de la saison ou pas?
J'espère amplement. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Raphaël. L'avantage qu'on a par rapport à la saison passée, c'est Lucas Chevalier. C'est qu'aujourd'hui, Lucas Chevalier nous offre entre guillemets 10 points, ce qui n'était pas le cas la saison dernière avec Gerbich et Léo Jardim. Donc la force de Lille aujourd'hui, c'est que Lucas Chevalier offre des points à Lille. On est un petit peu pareil. Lille, cette saison, est fort contre les forts, un petit peu plus compliqué contre les faibles, surtout au niveau de l'efficacité offensive. Mais donc Lille possède Lucas Chevalier qui lui offre des points, ce qui pourrait lui permettre d'obtenir cette cinquième place. Et on a aussi on a gagné ce week-end, on fait une très belle opération, donc ça nous met en confiance juste avant la trêve.
Si on regarde le classement, effectivement, on voit que Lens a 57 points, continue d'accrocher son rêve de Ligue des Champions, des Artésiens qui ont 2 points de moins que Marseille et toujours 3 points d'avance sur Monaco 4e et 8 points de mieux que Lille, premier non-européen. Alors il n'y a pas de Ligue 1 ce week-end. Au programme pour les sélectionnés, côté lillois, David Zegrova, Godmanson et Bayo, sans oublier les jeunes Chevalier, Virginius et Yoro qui vont quitter le domaine de Luchin, et puis les internationaux. Côté Lens, c'est Samba, Frankowski, Openda, Abdoul Samed, Danso, Machado, Aïdara et Da Costa.
Quand même, ça fait du monde. Ça fait du monde.
On passe au reste des sports. Benjamin Sautré-Friseau pour le résumé du week-end.
Valenciennes s'enfonce encore un peu plus. Après 5 matchs nuls d'affilée en Ligue 2, les joueurs de Nicolas Rabuel tombent à Caen, où tout commence très mal. 9e minute. D'une frappe contrée, Brahimi ouvre le score. Et malgré une inspiration géniale de Bonnet à la demi-heure de jeu, les Valenciennois craquent. Mendy se joue de Debuchy à un quart d'heure du terme, 2-1. VA chute à la 14e place du championnat et se rapproche dangereusement de la zone rouge. Elles sont en haut du classement 3e de Ligue féminine. Les joueuses de Villeneuve-d'Ascq remportent le derby du Nord. Sur son parquet, le SBVA domine largement Saint-Amand. Malgré un deuxième carton manqué, la seconde période est une formalité, plus 15 sur les deux derniers quarts. Ben Abdelkader termine meilleure marqueuse avec 23 points, 74-55, deuxième victoire de rang en championnat, idéal avant de retrouver l'ASVEL en Eurocoupe. Juan Sebastian Molano, félicité par son coéquipier de l'UAE Team. Le Colombien a remporté jeudi le Grand Prix de Denain. Après 12 secteurs pavés, de nombreuses chutes et cassures, tout se joue dans les ultimes mètres entre les 5 derniers échappés. Molano s'impose au sprint devant Tim Van Dijk de la Jumbo-Visma et Timo Kielich d'Alpecin de Kninck. Premier tricolore, le coureur d'AG2R Citroën, Paul Lapeyra. Préparation idéale avant Paris-Roubaix le 9 avril.
Merci messieurs pour ce Cop Nord. Merci Théo de Rangeon à la réalisation. Merci à RMC Sport. On se retrouve lundi prochain. Salut.